Il est 10h, bonjour. Nous allons commencer ce dernier cours de l'année à Paris. Après avoir entendu les collègues qui ont apporté leur éclairage sur l'architecture des forts avec Michel Redé, sur l'archéobotanique avec Charlène Bouchot, sur la céramique avec Roberta Thunberg, sur les sources écrites sur les modes de transport avec Adam Bülow-Jacobsen, et sur les acteurs du commerce la semaine dernière avec Hélène Cuvigny, je terminerai le cours de cette année en complétant l'examen de la série des forts de l'armée romaine que nous avons fouillé dans le cadre de la mission du désert oriental d'Égypte financée par le ministère des Affaires étrangères et l'Institut français du Caire. Et je résumerai in fine les principaux acquis et je tracerai les lignes du cours que j'entends donner l'année prochaine. Du fort de Dios, qui, je vous le rappelle, fut construit en 115 après Jésus-Christ, il nous reste à examiner la seconde période, c'est-à-dire lorsque l'intérieur du fort a été totalement remanié. Cette seconde période pourrait dater, comme dans le fort de Didumeuil, que nous avons examiné il y a déjà plus d'un mois, pourrait dater du dernier quart du IIe siècle ou bien du début du IIIe siècle. À ce moment-là, tous les casernements, ou presque, sont rasés et l'on édifie à leur place de nouveaux casernements beaucoup plus anarchiques, si on peut dire. On bouche aussi, on ne m'a pas donné le...
Voilà, je la vois pas.
On bouche aussi la poterne qui était au sud et on installe de nouvelles structures comme un nouveau praetorium, c'est-à-dire les appartements du commandant, une grande boulangerie avec des fours à pain et un nouveau sanctuaire. Alors pour les casernements, prenons l'exemple des casernements 116-117 qui sont adossés au rempart nord et qui sont remaniés, donc vous voyez ici, qui sont totalement remaniés à cette époque-là. La pièce 116 s'adossait à un escalier axial que vous voyez en partie supérieure de la photo. Et les murs que vous voyez dans la partie droite sont donc rasés et remplacés par de nouvelles constructions. Lors de cette reconstruction, les espaces... Ah, ça sera beaucoup mieux, merci. Les espaces furent redéfinis et l'on installa notamment des banquettes pour dormir et une meule qui semble indiquer que l'on y faisait la cuisine. Donc beaucoup de ces casernements ont été ainsi refaits. Donc là, je vous ai montré ce secteur-là. Et on a aussi refait tout l'angle... tout l'angle nord-ouest du fort dans cette zone en édifiant donc de nouveaux appartements pour le commandant et appartements qui étaient bien décorés, notamment de mosaïques. En effet, les pièces 20, 21 et 26 forment un complexe qui comprend donc trois pièces ornées de mosaïques d'une technique identique à celle qui est mise en œuvre à la même époque dans le sanctuaire. Ces mosaïques, vous voyez, sont en noir et blanc, sont d'une technique très similaire puisqu'il s'agit d'éclats de quartz et de pierre noire et non pas de tesselles bien carrées comme dans les mosaïques classiques, mais à la fin, le résultat est assez similaire à ce qu'on peut avoir dans une mosaïque, comme vous pouvez le voir sur cette photo qui représente la pièce principale ornée d'une façade de temple encadrée de deux colonnes surmontées d'un fronton. La parenté des techniques donc, entre ces pièces et le sanctuaire semble montrer qu'on les a réalisées au même moment et avec les mêmes ouvriers. Malheureusement, on ne dispose d'aucun élément de datation intrinsèque. Les mosaïques ont été mises en place sur le sol géologique qui avait été raclé pour la circonstance et les pièces n'ont livré aucun matériel archéologique. Elles étaient maintenues propres et elles font partie des pièces qui ont été utilisées et nettoyées jusqu'à l'abandon du fort. Dans la partie... on va revoir le plan. Dans la partie orientale du fort, c'est-à-dire toute cette zone-là qui a été fouillée par mon ami Michel Reddé, on a là aussi refait totalement les casernements qui ont été détruits et c'est probablement à cet emplacement-là que se trouvait le sanctuaire primitif qui lui aussi a été totalement rasé et on a construit donc ces murs que vous voyez qui sont relativement réguliers mais pas du tout construits de la même manière que les murs de la première période puisque les assises sont assez irrégulières. Contre la courtine est et singulièrement dans l'angle sud-est du fort, on a édifié à ce moment-là un ensemble de fours à pain extrêmement complexes qui se succèdent visiblement avec une certaine régularité et qui sont construits un peu en quelque sorte les uns sur les autres. Vous voyez ici ces fours qui se succèdent, donc vous voyez la stratigraphie est assez nette et progressivement le sol s'exhausse et plutôt que de faire de grands nettoyages, on préfère reconstruire des fours les uns au-dessus des autres. 5 fours ont été dégagés par Michel Reddé, ils sont tous circulaires, certains de grandes dimensions, le four 1 par exemple que vous voyez ici mesurait 1,65 m de diamètre et le fond était tapissé de briques et la bordure faite de fonds d'amphores qui sont en fait des grands fonds d'amphores égyptiennes 3 du second type, c'est-à-dire les 10 places qui se répandent à la fin du 2e siècle et au 3e siècle après Jésus-Christ et qui ont donc une grande pointe assez facile à réutiliser pour faire ce type de four. L'intense activité des fours a généré une épaisse couche cendreuse et l'utilisation concomitante de plusieurs fours montre une capacité de production importante. Il est possible que ce fort ait eu alors un rôle important dans la distribution des pains et nous verrons qu'il n'est pas impossible qu'il ait eu ce rôle, même si dans le cas du fort de Dios, nous n'en avons pas la preuve écrite, qu'il ait eu donc le rôle de faire des pains qu'on distribuait vers le milieu du 3e siècle après Jésus-Christ aux populations nomades. Alors voyons maintenant la question du sanctuaire, qui est tout à fait importante, qui a déjà été abordée par Michel Reddé d'un côté et Hélène Cuvigny de l'autre. On vous a déjà expliqué que ce n'est pas la chapelle primitive qui devait se situer dans ce secteur-là. Et ici, donc, au moment où on refait l'intérieur du fort, on rase les casernements qui étaient dans ce secteur et on installe à côté de la porte un nouveau sanctuaire. À côté de la porte et à côté des citernes, vous voyez ici les citernes, et vous voyez ici l'emplacement de ce sanctuaire. Il faut en suivre l'évolution qui est assez complexe. Donc, au tout début, lors de la construction du fort en 115 après Jésus-Christ, on a construit, bien entendu, le rempart que vous voyez ici et l'escalier qui permet de monter à la tour qui défend la porte. Peu après, dans une phase 2, peut-être immédiatement après, au cours de la même campagne de travaux, mais on voit bien qu'il y a une légère différence de temps, on a accolé à ce rempart plusieurs pièces qui constituaient certainement des casernements. Il en subsiste un mur dont nous avons la base ici, sous le mur postérieur. À cette phase 2 qui a livré pratiquement aucun matériel, succède donc la construction du sanctuaire. Cette construction du sanctuaire, je l'ai appelée phase 4, je vous ai passé les détails des phases antérieures, pour en venir directement à ce qui nous intéresse. Et on édifie donc ce sanctuaire dont nous savons, grâce à une inscription, qu'il est dédié à Zeus Hélios, grand Sarapis, et à la fortuna du fort, c'est-à-dire à la tyché du fort, et par une inscription qui a été faite par Iulius Aquilas. La tyché du fort était probablement, comme le montre une gravure trouvée par ailleurs, était probablement Isis. Le mur nord de la chapelle, ici vous voyez la chapelle telle que nous l'avons trouvée après les premiers dégagements du sable. Nous le reverrons en détail, mais il y a principalement ici un podium décoré de marqueterie de pierre qui supportait les statues. Vous avez ici deux statues de culte et on accédait à ce podium par un escalier qui, dans la phase finale, est bouché par ce mur qui est ici. Alors, voyons la première phase du sanctuaire, donc pour moi la phase 4, avec donc là aussi une mosaïque, un peu du même, exactement du même type que les précédentes, même technique et même type de décoration. Ce socle qui est ici et trois bases de piliers. Ces deux-ci supportant probablement, comme vous l'a expliqué Michel Redé, un baldaquin qui abritait les statues de culte, et cette base centrale ici qui devait être un autel. Les murs donc ont été refaits, et vous voyez ici la différence d'appareil très nette, puisqu'on a un appareil en opus picatum qui surmonte le mur de la phase précédente. Le podium est particulièrement intéressant car il était bien conservé, c'était lui qui supportait les statues et peut-être l'enseigne du détachement. J'ai en effet trouvé à la face supérieure des trous qui pourraient avoir fixé un support de bois qui aurait maintenu l'étendard du détachement. C'est l'hypothèse qu'avance Michel Redé, mais Hélène Cuvigny n'est pas d'accord avec cette idée, elle pense que ça supportait peut-être le trône de Sarapis lui-même et il faudrait restituer alors à sa droite une statue de Cerbère. En tout état de cause, la statue en pied qui était sur le côté, ici, qui a été enlevée sur cette photo, était probablement la statue d'Isis. Le socle est décoré d'une marqueterie de pierre qui utilise de la stéatite, qui est aisée à tailler. Il y a des carrières immédiatement à proximité, nous allons les voir tout à l'heure, et on remarque la présence de petits chapiteaux corinthiens en bas-relief aux angles, nous allons les voir sur une image postérieure, et au centre, ici, un disque dont on n'a que la trace, qui devait évoquer le soleil et donc le dieu principal, Zeus Hélios, grand Sarapis. Voici quelques membra disjecta de ce podium. Ici, tel que nous l'avons trouvé, le chapiteau engagé qui décorait la façade du podium. Ici, une petite statuette de Zeus qui est bien reconnaissable à son foudre qui tient ici. Ici, la tête d'Isis. Et ici, une représentation de Mine très caractéristique et d'Isis devant lui. Un escalier est donc passé derrière le podium et à cet escalier, on accédait par une petite porte située sur le côté et c'est dans cet escalier que furent retrouvés à la fois un cadran solaire, des fragments d'une table avec des réponses oraculaires dont Hélène Cuvigny vous a parlé, voici ici le fragment, et 20 ostracas oraculaires, c'est-à-dire comportant des réponses des dieux qu'on interrogeait pour savoir l'avenir selon un système de tirage au sort. Hélène Cuvigny vous a présenté ses découvertes. Je n'y reviens pas, sauf pour signaler qu'elle a publié les inscriptions et les ostracas dans un passionnant article qui s'appelle « The Shrine in the Presidium of Dios, Eastern Desert of Egypt, Graffiti and Oracles in Context » paru dans la revue Chiron, numéro 40, en 2010. Le style et le mode d'exécution des mosaïques. Alors ici, vous voyez une photo déjà présentée de l'inscription à Zeus Helios Grand Sarapis et une représentation de ce même Sarapis qui, à côté de lui, alors, tient, met la main sur Cerbère, que vous reconnaissez ici. Le style donc, et le mode d'exécution des mosaïques sont identiques, comme je l'ai dit, au pavement découvert dans l'angle nord-est du fort. Il s'agit donc manifestement de la même campagne de travaux. Et étant donné le caractère exceptionnel de ces décors de mosaïques, je me demande si, plutôt qu'une banale réfection des casernements, ces travaux d'embellissement n'ont pas été réalisés pour une occasion solennelle, telle que l'aménagement d'un lieu d'étape pour un grand personnage comme le préfet d'Égypte. En effet, les déplacements de personnages de haut rang nécessitaient des préparations extraordinaires, tant pour leur table, bien entendu, que pour leur logement, et ça pourrait être donc l'occasion de ces constructions. Mais nous n'en avons pas la preuve, car nous n'avons aucun écrit qui nous permet de le dire. De plus, nous n'avons trouvé aucun élément datable dans les couches qui correspondent à la construction, ni du praetorium, comme je vous l'ai dit, ni de l'Aedes. Et donc, nous avons une certaine incertitude sur la datation qui oscille entre la fin du IIe siècle et le début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Quelques temps après la construction, mais là aussi à une date impossible à préciser faute de matériel associé à ces remaniements, deux bassins furent reconstruits sur la mosaïque. Et vous voyez ici les traces, il y en a un ici et il y en avait un autre ici. Alors, vous voyez ici l'emplacement de la bordure. Ces bassins ont probablement une fonction liturgique, peut-être de purification, mais on n'en sait pas plus. La chapelle a rendu les services du culte public, du fort et du culte privé aussi, nous savons, ainsi qu'une fonction oraculaire, jusque vers le milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. On assiste ensuite, en phase 6, à une destruction violente de la chapelle. Le podium est alors en partie détruit, ainsi que le baldaquin, et les conditions d'ensablement qui prévalent dans cette zone du désert n'auraient, selon moi, entraîné ni une destruction partielle des décors de pierre taillée, comme vous le voyez ici, les décors ont été totalement arrachés, ni la destruction des piliers dont on ne voit ici que les bases. Il est donc vraisemblable que, selon moi, après l'abandon du fort par l'armée, la chapelle fut saccagée. Ce pourrait être le fait de premiers chrétiens ou peut-être des blémis, c'est-à-dire les populations nomades du désert, qui auraient brisé les statues des idoles adorées par les soldats de l'armée. À nouveau, malheureusement, je n'ai aucun élément pour préciser la datation de cet événement, mais il me paraît logique qu'il ait lieu après le départ de la troupe qui n'aurait pas toléré, bien entendu, qu'on saccage le sanctuaire du fort. Je daterai donc cet épisode vers la fin du IIIe siècle, dans le dernier quart du IIIe siècle ou au début du IVe siècle. Après l'épisode de destruction, la chapelle fut reconstruite en utilisant des matériaux de récupération. Et vous voyez ici donc le sol de la chapelle primitive avec ses mosaïques et ici partiellement enlevé le sol qui le recouvre. Cette phase de reconstruction, ce que j'ai appelé la phase 7, voit donc à la fois le comblement de l'escalier, la reconstruction, en tout cas la réparation grossière du podium et la réfection du sol avec des briques, des pierres plates de schiste et de granit et des éléments de pierre taillés provenant de l'ancienne décoration du podium. Là aussi, on manque d'éléments chronologiques pour dater cette reconstruction. Mon hypothèse actuelle est que cette restauration a eu lieu dans le courant du IVe siècle. on pourrait la mettre en relation, peut-être, avec une inscription gravée sur une des dalles qui doit provenir du podium et qu'Hélène Cuvigny lit ainsi, Sisinios et à l'autre ligne Nestorios, car ces deux noms sont tardifs et pourraient donc avoir été incisés au cours du IVe ou peut-être du début du Ve siècle. Peut-être est-ce les noms des personnages qui ont réparé le sanctuaire. Le travail, effectué avec des briques récupérées dans les ruines des citernes, a pu être réalisé très rapidement, peut-être en un jour ou deux. Dans ce cas, cette restauration serait le fait de voyageurs venant de Bérénice qui s'arrêtaient encore dans le fort en relatif bon état. La rareté du mobilier tardif n'est pas un argument contraire. En effet, c'est l'abondance du mobilier céramique du Haut Empire qui est anormale. Elle est le signe du fort pouvoir d'achat des soldats et d'une bonne organisation du ravitaillement. Lorsque l'armée s'est retirée, tout le système d'approvisionnement a disparu et il est donc logique qu'on ne trouve que très peu d'objets tardifs dans les forts, même s'ils ont continué d'être fréquentés occasionnellement par les caravanes venant de Bérénice et par des voyageurs, comme ce Milikios qui, au Panéum du Wadi Beni, dit qu'il a mis 13 jours pour venir de Bérénice. Après l'abandon définitif du fort, la chapelle a commencé à s'ensabler. Et vous voyez ici, donc, c'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, le sol primitif et avait été recouvert par le sol de brique, et ce sol de brique est lui-même recouvert par ce niveau de sable. Et c'est alors qu'une deuxième destruction de la chapelle a eu lieu, et à ce moment-là, on a cassé les statues. Et vous voyez ici un pied de statue, vous voyez des plaques d'ex-voto qui ont été jetées et qui donc correspondent à une deuxième destruction. Cette destruction est associée avec un peu de matériel tardif, notamment des fragments du lanfeur Late Roman Amphora III de la région d'Éphèse, qui datent du courant du Ve siècle. Il me paraît donc vraisemblable que cette deuxième destruction et un tel acharnement à détruire les images païennes est le fait de chrétiens qui, à cette époque, fréquentent la route, bien entendu, et ont donc eu à cœur de démolir les vestiges du paganisme. Après l'abandon du fort total, c'est-à-dire après même les derniers passages de voyageurs venus de Bérénice, on a constaté une réoccupation partielle qui n'a rien à voir avec le trafic commercial sur la route de Bérénice. Dans cette phase finale du fort, les ruines ont été utilisées comme campement par des tailleurs de pierre qui ont exploité des affleurements de stéatite pour tailler des marmites. Une vingtaine de petites carrières ont été relevées au nord du site. Alors ici, vous voyez l'un des derniers niveaux du fort avec ces marmites de pierre qui sont posées sur le sol. Ces carrières donc sont situées au nord du fort lui-même, qui est situé dans cette plaine-là. J'en ai relevé donc une bonne vingtaine. Et elles ont livré des centaines d'ébauches de vases cassés. Vous voyez ici l'affleurement de stéatite et voici des ébauches dans le sable. Dans le fort, les vases qui correspondent à cet artisanat n'étaient accompagnés d'aucun mobilier autre que le mobilier résiduel. Et il faut donc se tourner vers les sites d'habitat où l'on trouve ce genre de marmites pour dater cette phase entre le 8e et le 12e siècle de notre ère. Ces vases sont appelés baram et ils étaient utilisés dans les maisons du Moyen-Âge, à l'époque islamique, pour cuisiner et pour servir les mets. La stéatite, en effet, est tendre et aisée à sculpter lorsqu'elle est tirée de la carrière, mais elle durcit lorsqu'elle est exposée au feu, et donc cette pierre est parfaite pour la cuisson des plats mijotés sur des braises. Ce dernier avatar du site en fait donc la base d'un campement pour les fabricants de barames médiévaux. Voyons maintenant ce qui se passe un peu plus au sud. Le fort suivant est celui de Xéron Pélagos. Il est situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Dios. Vous voyez ici la carte générale, la route de Koptos à Bérénice, et nous étions dans la zone donc, de Dios, Birbeïsa, ces derniers temps, et nous passons maintenant dans cette zone-là, et nous arrivons donc au fort de Xeron Pelagos. Il a fait l'objet de fouilles toutes récentes, puisqu'elle s'étale entre 2010 et 2013. En fait, nous avons achevé les recherches de terrain en janvier de cette année et l'étude des architectures, des stratigraphies et du mobilier archéologique est encore en cours. C'est pour cela que j'en ferai une présentation très brève aujourd'hui, me réservant d'y revenir en détail dans le cours de l'année prochaine lorsque la documentation sera mise à jour. Le fort est un peu plus petit que les précédents. Il est implanté au milieu d'un très vaste wadi très sableux qui représente comme une mer asséchée ou un lac asséché, ce qui est le nom même dont le fort tire son origine. Et vous le voyez ici, il émerge à peine au milieu de ce vaste espace. Il est donc un peu plus petit que les autres. Il mesure 44 mètres par 33 mètres 50. Et cette dimension plus petite pourrait être due à la nature du substrat géologique. En effet, le fort est bâti non pas au fond du wadi comme les autres forts, mais sur un affleurement de poudingue compact. Et de ce fait, creuser un puits fut relativement plus aisé, car la compacité du substrat a permis de limiter le diamètre du puits. Comme le puits que vous voyez ici n'occupait pas la même superficie que dans les autres forts, il ne fut pas nécessaire de bâtir autour de lui un fort aussi vaste que les autres. Mis à part cette particularité, le fort d'Oxéron est similaire à ceux de la série de Didymoi, Aphrodites et Birbeïsa, en ce sens que, comme vous le voyez, il est défendu par quatre tours rondes aux angles et possède deux tours semi-circulaires de part et d'autre de l'entrée. La fouille de la porte n'a malheureusement pas livré l'inscription de fondation, qui évidemment nous aurait bien aidé. Et donc la datation de la construction repose surtout sur la céramique trouvée dans les couches profondes du dépotoir. Le dépotoir qui, comme vous le voyez sur ce plan, s'étend au nord de la porte sur une très vaste superficie. Et nous en avons fouillé à peu près la moitié. Et dans les couches profondes de ce dépotoir, j'ai trouvé quelques céramiques et notamment des fragments d'un bol Dragendorf 37 fabriqué à la Groffesanque près de Millau, donc qui vient du centre de la Gaule, qui permet d'attribuer ces couches à la période flavienne. Et donc, il me paraît vraisemblable que ce fort fait partie de la série de ceux qui ont été construits en 76-77 après Jésus-Christ. Comme tous les forts de la route de Bérénice, il faut distinguer une première grande période entre les Flaviens et la fin du IIe siècle et un deuxième état qui voit une reconstruction totale de l'intérieur du fort, suivi de nombreuses évolutions et proliférations de constructions. Dès le départ, à l'intérieur se situaient des citernes et des thermes, que vous voyez ici. Voici une vue de l'une des citernes en cours de fouille, donc du même type que celle de Dios. Vous voyez une complète parenté de mode de construction. Et voici une vue des thermes que je ne détaille pas pour l'instant. Au cours de la première période du fort, le fort était associé à des constructions externes que vous voyez ici sur la partie ouest. Et constructions externes qui sont faites à la fois de pierres et de briques crues et qui n'ont, semble-t-il, pas fonctionné très longtemps, en tout cas déjà dans le courant du milieu du IIe siècle. Ces constructions externes étaient rasées et étaient recouvertes par des couches de dépotoir. Cet ensemble donc est totalement reconstruit dans la première moitié du IIIe siècle, puisque l'on rase les anciens casernements. Nous avons trouvé quelques traces, surtout dans la partie nord-est, nord-ouest du fort, et que l'on édifie à leur place des casernements extrêmement complexes, comme vous le voyez sur cette photo, dont la stratigraphie se dépose à vive allure. On a de nombreuses couches de dépotoirs entrecoupées de sol, associées à des petits silos, qui se sédimentent dans la première moitié et vers le milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Le fort inclut à cette époque-là une nouvelle chapelle qui est dédiée à Athéna et qui est appelée dans les ostracas l'Athénadion, et de nouveaux termes qui sont remaniés. À l'entrée se trouvait aussi un petit bâtiment dans lequel ont été trouvés une soixantaine de bordereaux de distribution de grains à des barbares locaux et qui est datable de la décennie 260. Le fort semble donc abandonné dans la décennie 260. J'ai pensé un temps qu'il avait été occupé plus longtemps que les autres, mais ces dernières semaines, après avoir compté le mobilier par catégorie, je me suis aperçu que le mobilier archéologique trouvé dans le fort de Xéron comportait beaucoup plus d'importations que partout ailleurs. J'ai présenté les chiffres la semaine dernière, et par exemple, dans la première moitié du IIIe siècle, les amphores importées représentent 6% du total des amphores. Cette observation ôte donc, selon moi, tout crédit à l'argument a silencio que j'avais cru pouvoir avancer pour les autres forts. En effet, dans les autres forts, la rareté des amphores africaines et la quasi-absence des amphores Dressel 30, bien représentées par ailleurs à Xéron, n'est pas significative comme je le pensais. Par ailleurs, l'étude des ostracas réalisée par Hélène Cuvigny montre, et elle nous l'a expliqué la semaine dernière, que parmi les nomades qui reçoivent des bons de blé à Xéron dans la décennie 260, se trouve un personnage nommé Baratite qui doit correspondre à l'Hippotyrannos des barbares mentionné dans un autre ostracon trouvé à Didymoi dans les phases finales du dépotoir. Cela établit donc une concordance entre les derniers niveaux des forts et semble montrer que leur désaffectation résulte d'une mesure générale de retrait des troupes. Mais je reviendrai sur cette question in fine tout à l'heure. Alors, voici ici une vue de ce dépotoir qui a livré beaucoup de matériel, avec au centre un énorme dépôt de gravier qui correspond à la construction du fort et surtout au creusement du puits. C'est dans ce dépôt de gravier qu'ont été trouvés les fragments de ce vase de céramique sigillée de la Grosfezanque, et puis au-dessus, les couches de dépotoir qui ont été déposées. Alors voyons maintenant l'effort suivant. Car, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas détailler plus Xéron Pélagos, car il faut y travailler encore avant de présenter un tableau beaucoup plus cohérent. Voyons donc l'effort suivant de la route de Bérénice, et le premier d'entre eux est celui de Phalacron, dont le nom est connu par l'itinéraire d'Antonin et par la table de Peitinger. Il est situé au pied de montagnes pelées, d'où il tire son nom, et vous voyez ici ces montagnes. Et il est implanté donc à une quarantaine de kilomètres de Xéron, et on s'approche désormais de la mer Rouge et du secteur du mont Smaragdus, c'est-à-dire du mont des Émeraudes. Voyez sur cette diapositive une vue du paysage absolument magnifique de ce secteur, Et vous remarquez que donc nous sommes au pied des montagnes et véritablement à l'endroit où les wadis enserrent le fort, ce qui explique malheureusement que le dépotoir qui, comme d'habitude, devait recéler l'ensemble de l'histoire de cet établissement a été totalement emporté par les flots du wadi et donc nous prive de beaucoup d'informations. Le fort est beaucoup plus petit aussi que les autres, en tout cas que ceux de Didymon et de Dios, puisqu'il ne mesure que 29 mètres par 25, donc il est encore plus petit que celui de Xéron. Mais comme à Xéron, il est complété par un bâtiment extérieur que vous voyez ici. Il est bâti sur un affleurement rocheux, vous voyez ici en gris les alluvions du wadi, et à côté d'une zone de notre affleurement rocheux qui a servi de carrière pour sa construction. C'est un fort qui est extrêmement bien conservé. Le chemin de ronde et le sol des tours, les escaliers sont intacts, sur environ 3 mètres de hauteur, de même que les casernements qui sont ensablés mais peu ruinés. Il a été fouillé par Michel Redé en 2010 dans le cadre de notre mission. La partie la plus endommagée, donc, est le dépotoir qui devait s'étendre, comme d'habitude, devant la partie sud du fort, devant la porte. Et on est donc un peu démuni, notamment pour dater l'étape de construction. Le plan lui-même est très simple. C'est un quadrilatère formé de courtines marquées aux angles par des tours saillantes, mais on remarque qu'au centre de la façade, ici, la porte principale n'est pas flanquée de tours semi-circulaires comme d'ordinaire. Sur la face nord, il existe une poterne qui permettait donc de sortir par l'arrière du fort. À l'intérieur, on trouve, comme d'ordinaire, un puits central, comme d'habitude largement effondré, dont la trace subsiste sous forme d'une dépression. Les casernements sont adossés aux courtines sans grande symétrie, mais avec malgré tout une certaine régularité qui pourrait dénoter une phase primitive de construction et non pas les reconstructions que l'on voit d'ordinaire. Certaines pièces présentent des aménagements tels que des banquettes ou un four à pain, mais à la différence de Didymoi, de Dios ou de Xéron, on ne voit ni prolifération de petites pièces, ni dépôt d'ordures dans les casernements. Michel Redé a toutefois noté la construction, dans le courant du IIIe siècle, d'un enclos pour animaux près de la porterne sud que vous voyez ici, et un enclos qui est construit au-dessus de couche d'occupation avec des déchets alimentaires et des céramiques. À l'extérieur, donc, ici vous voyez une vue de la porte d'entrée qui a été bouchée dans une phase finale du fort. Et ici, une vue de l'intérieur qui nous montre le rempart avec le chemin de ronde qui passe ici, les casernements adossés au rempart, et ici une coupe où vous voyez très bien l'état parfait de conservation puisqu'on a pratiquement la totalité des tours, la totalité du chemin de ronde et une partie du mur qui le protégeait. Et ici, donc, en gris, les murs qui s'adossent au rempart. Voici une vue de l'intérieur. Vous voyez que le fort est très ensablé mais très bien conservé. Et une vue de l'escalier qui permet de monter sur le chemin de ronde. Donc, à l'extérieur se trouve un bâtiment qui mesure 22 mètres par 12 et qui comporte un couloir central, ici, desservant deux ensembles de pièces à peu près symétriques. Une chicane est destinée à protéger l'entrée de part et d'autre et donc à renforcer la sécurité, si on peut dire. Il s'agit vraisemblablement d'une de ces bâtiments extérieurs dans lequel on accueillait les voyageurs. Donc revenons au fort pour en tenter d'en borner l'occupation. L'absence de dépotoir rend, comme je vous l'ai dit, impossible la détermination de la phase de construction. On ne peut se fonder que sur les vases trouvés à l'intérieur du fort, qui sont en nombre limité. J'ai compté à peine 131 objets trouvés dans ces recherches. Ce mobilier assure que le fort a été occupé durant le IIe siècle et au début du IIIe siècle au moins. Au titre des importations d'amphores, on note la présence de trois amphores Dressel de 4 de Cilicie, de trois Gauloises 4 et d'une amphore crétoise. Les gourdes, peut-être les pleuras, si l'on suit l'hypothèse émise la semaine dernière par Hélène Cuvigny, sont bien attestées. J'ai compté 19 exemplaires de gourdes fabriquées à Soin et 4 de gourdes d'un groupe à pâte calcaire, probablement de la région de Coptos. La faible proportion des gourdes de ce dernier type, c'est-à-dire des gourdes blanches à pâte calcaire, me paraît indiquer un abandon qui serait antérieur à celui des forts de Dios et d'Edith du Moy. Mais, là encore, la faible quantité de matériel conservé dans le fort ne permet pas de l'affirmer. Par ailleurs, comme Michel Redé l'a constaté, les casernements ont été maintenus propres et la fouille les a trouvés seulement recouverts de sable, sauf dans la zone de l'enclos pour animaux. Cette particularité, là aussi, pourrait indiquer un abandon plus précoce que les autres forts, peut-être au début du IIIe siècle ou dans le premier quart du IIIe siècle. Après l'abandon, les ruines, qui étaient, comme vous le voyez, très bien conservées, ont servi d'abri lors de passages de voyageurs au cours de l'Antiquité tardive. Nous y avons trouvé des amphores Leitroman Amphora 7 fabriquées en Égypte, des Leitroman Amphora 1 fabriquées en Cilicie, et des Leitroman Amphora 3 fabriquées dans la région d'Éphèse, ainsi qu'un bol tardif produit à Assouan qui témoigne donc de ces haltes au cours des 5e et 6e siècles après Jésus-Christ. En résumé, pour le fort de Falakron, comme pour beaucoup d'autres forts de la route de Myos-Hormos, nous sommes dans l'incertitude d'un point de vue chronologique. Rien ne s'oppose à ce que le fort soit construit lui aussi en 76-77 après Jésus-Christ, mais de légères différences architecturales telles que l'absence de tour semi-circulaire pour défendre la porte pourraient indiquer que ce fort-là n'entre pas dans la série flavienne, et donc une date légèrement postérieure n'est pas à exclure. La fin de l'abandon pose problème lui aussi, tant la pratique du nettoyage des casernements que la structure du mobilier archéologique me paraît indiquer que cet abandon ne se produit pas dans la même phase que pour les autres forts, et donc plutôt, comme je viens de vous le dire, dans le premier quart du IIIe siècle. Aucune raison ne peut être avancée pour cet abandon, sinon éventuellement un tarissement du puits, mais nous n'en savons rien. Le fort restait donc en parfaite élévation, bien visible au pied des montagnes, et il est donc logique qu'il ait continué à servir d'étape et de lieu de bivouac après son abandon, ce dont témoignent les fragments d'amphores des 5e et 6e siècles. Poursuivons maintenant notre route vers le port de Bérénice en examinant la situation du fort suivant qui s'appelle Apollonos Hydrema. Ce fort, donc, vous voyez ici sur la carte, nous approchons encore plus de la mer Rouge. Nous étions à Falakron, ici, au pied des montagnes, et nous traversons un long wadi qui aboutit à un carrefour de wadi où se trouve Apollonos Hydrema, juste à côté des mines du Mons Maragdus. Le fort, donc, n'a pas été, je vous en montre de suite une image, n'a pas été fouillé, mais seulement prospecté par notre équipe et par celle surtout de Stephen Sidebottom. Et il présente deux particularités intéressantes. Vous voyez ici, le carrefour de Wadi et l'emplacement du fort qui forme un grand quadrilatère dont on voit très clairement le deux faces du rempart. deux particularités intéressantes, disais-je. D'une part, sa fondation, qui est relativement ancienne, et d'autre part, sa dimension. Voyons d'abord la finance, la fondation. Le lieu est cité dans l'inscription souvent mentionnée ici, que l'on appelle l'inscription des portes du désert numéro 56 dans la publication d'André Bernon, ou l'inscription des Inscriptiones Latinae Selectae de 1483, dont nous avons vu avec Michel Redé qu'il faut probablement la dater vers le début du 1er siècle de notre ère. On se souvient que cette inscription célèbre la construction de citernes par une vexillation de 1414 soldats à Apollonos Hydroma, à Compassi, à Bérénice et à Myos Hormos. Et je vous ai souligné ici l'emplacement de où Apollonos Hydroma, comme on lit très bien ici, est indiqué. Cela n'implique pas pour autant que le fort ait été construit à ce moment-là. Au contraire, je crois que, comme à Compassi, il y avait déjà un puits et probablement un poste militaire à cet emplacement. Il est probable que la fondation du fort remonte à la période ptolémaïque, lorsque les Ptolémées ont aménagé la route d'Edfou à Bérénice pour faire transiter les éléphants de guerre. Le Praesidium d'Apollonos est aussi mentionné dans un des ostracas de l'entreprise de chamelier de Nicanor, souvent évoqué ici et notamment par Adam Bülow-Jacobsen, entreprise qui était active entre 6 après Jésus-Christ et 69 après Jésus-Christ, selon les dates extrêmes des ostracas qui en ont été conservés. L'ostracon qui concerne le Praesidium d'Apollonos est un bordereau de livraison de blé. Durant l'Empire, Apollonos Hydroma est cité plusieurs fois dans les sources. La mention la plus importante est celle de Pline dans l'Histoire naturelle, livre 6, paragraphe 102-103, qui indique ce fort comme l'une des étapes, des quatre étapes, qui, vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, permettaient de se ravitailler en eau sur la route de Bérénice. Je vous rappelle ces étapes, c'est celle que Pline appelle Hydroma, qui est située à Phoenicon. Ensuite, l'hydroma de Compassi, que nous avons déjà étudié, puis l'hydroma d'Apollon, c'est-à-dire le fort d'Apollonos, et ensuite un autre hydroma qui s'appelle Novum Hydroma. Et je vous rappelle qu'hydroma veut dire lieu où l'on prend l'eau et en fait, en pratique, puits. Le poste fortifié est ensuite mentionné dans l'itinéraire d'Antonin entre l'effort de Phalacro, c'est-à-dire Phalacron, et Calbassi, et ensuite dans la table de Peutinger, entre les mêmes forts, mais dont la table porte des noms légèrement fautifs. Donc on voit une longue durée d'occupation. La deuxième particularité d'Apollonos est que le fort est beaucoup plus grand que les autres. En effet, bien qu'il soit très dégradé par les flots du Wadi, comme vous pouvez le voir ici, il semble couvrir près d'un hectare et pourrait avoir rempli plusieurs fonctions, à la fois étape et lieu d'approvisionnement en eau sur la route de Bérénice, mais aussi centre administratif contrôlant les mines de béryl et d'émeraude du mont Smaragdus, dont, comme nous l'avons vu sur la carte, les vestiges d'exploitation sont visibles à Sikait et à Nougrous, à quelques kilomètres au nord-est du fort. Les prospections au sol, là vous voyez ici sur cette photo, donc nous sommes à l'intérieur du fort, ici c'est la courtine nord et la courtine est. Les prospections au sol montrent principalement une longue courtine, encore en élévation sur 120 mètres de longueur, c'est-à-dire plus du double de celle des autres forts. Et l'intérieur du fort, ici une autre vue de cette courtine qui est coupée à un moment donné par le flot du Wadi, mais on voit bien une élévation encore considérable. L'intérieur du fort est recouvert par les alluvions et la reconstitution que propose Steve Stibotam dans son ouvrage The Red Land paru en 2008 est donc très largement hypothétique. Je ne la présente que pour montrer la différence de taille et peut-être de fonction donc entre ce Praesidium par rapport à tous les autres que nous avons fouillés. Le mobilier que j'ai vu en surface est principalement datable des 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, mais l'équipe de Stibotam a aussi repéré des céramiques des 5e et 6e siècles. Au total, pour la compréhension de son architecture et de son rôle, certainement important, pour la détermination de sa chronologie, il faudra évidemment attendre d'éventuelles fouilles. Mais gardons à l'esprit que c'est un site certainement beaucoup plus important et qui a un rôle probablement administratif en ce qui concerne la zone des mines du Mons Maractus. Continuons notre route vers Bérénice et nous en approchons désormais. Après Apollonos, trois autres praesidia sont mentionnés comme étapes sur la route. Par les sources que j'ai déjà mentionnées, c'est-à-dire par Pline, par l'itinéraire d'Antonin et par la table de Peutinger. Il s'agit de Kalbassi, de Novum Hydroma, appelé en grec Kenon Hydroma, c'est-à-dire la même chose, le nouvel Hydroma, et de Vetus Hydroma. Alors, vous voyez ici la carte, donc nous étions à Apollonos et nous arrivons à Bérénice. Il reste donc trois étapes. Celle de Kalbassi, de Kenon Hydroma, de Vetus Hydroma et ensuite donc de Bérénice elle-même. Tous ces trois forts sont très mal connus. Kalbassi, dans le Wadi Husun, livre selon Steve Stibotam principalement de la céramique de l'Antiquité tardive. Mais étant donné sa mention dans les listes de l'itinéraire d'Antonin, et de la table de Peutinger, il ne fait pas de doute que ce Praesidium remonte au moins au IIe siècle et probablement à l'équipement de la route en 76-77. Ensuite, Novum Hydroma, qui est situé dans le Wadi Harsir, n'est pas localisé avec certitude. Il est mentionné par Pline, toujours dans le paragraphe 102-103, comme une étape normale. Pline dit « on arrive ensuite au nouvel Hydroma à 236 000 de Coptos ». Il existait donc déjà vers le milieu du 1er siècle et pourrait être alors d'une construction relativement récente car nous avons vu qu'il n'est pas mentionné dans l'inscription des portes du désert numéro 56. Enfin, Vetus Hydroma, qui est situé dans le Wadi Abu Rayyan, livre du mobilier qui s'étage de l'époque ptolémaïque à l'Antiquité tardive, confirmant donc son nom, puisque sa fondation remonterait au Ptolémée. Et par contre, ce nouveau hydroma qui n'est pas fouillé est assez bien connu, car les vestiges sont encore très visibles. Déjà, Wilkinson, en 1826, les avait explorés et en avait dressé le plan. Il y a plusieurs ensembles, probablement un fort ptolémaïque ici et le fort de la période romaine ici, et on les voit très bien lorsqu'on monte sur la colline qui les domine, ici sur une photo prise par Steve Stibotam et publiée dans son ouvrage de 2008 sur The Red Land. Donc vous voyez la zone probablement du fort ptolémaïque et du fort romain qui attendent des recherches plus approfondies. En résumé, sur les quatre derniers praesidia qui précèdent Bérénice, qui sont connus seulement par des prospections, ceux de Kalbassi et de Novum Hydroma ont toute chance de présenter le même faciès que Didymoi ou que Xéron, mais Vetus Hydroma, qui remonte à l'époque ptolémaïque, offre donc des architectures différentes. Et Apollonos Hydroma pourrait aussi différer, car construit plus tôt, au moins dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ et probablement à l'époque ptolémaïque, et parce qu'il est sensiblement plus grand que les autres. Mais il est possible, et même probable, qu'il a été totalement reconstruit par l'armée romaine. Donc, nous arrivons à la fin de notre première heure. Nous allons faire une petite pause et ensuite j'aborderai de façon synthétique les informations que nous a donné toutes ces recherches sur le commerce de la mer Érythrée.